Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 46. Mon nom est Paul Landréau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Qu'est-ce qui a marqué notre actualité dernièrement dans le milieu cinéphile, Pascal? Il y a un site web qui a fait une mise à jour importante.
Ouais, ben ça c'est les freaks de liste en nous autres, Paul qui parle là, puis dans le fond c'est le site deschutepictures.com. On en parle quand même assez souvent, mais là c'est le moment d'en reparler en grand parce que c'est un site en fait où ils compilent des listes de films puis ils essaient de faire la liste la plus objective possible. Bon, maintenant, la liste la plus objective possible, c'est toujours un débat éternel à savoir comment c'est faisable, mais c'est parce que le site se base sur des compilations vraiment de tout plein de bulletins, de tout partout. Ben là, c'est sûr que le Sight and Sound de l'année 2012 a vraiment fait un gros impact sur la liste. T'as 1000 films qui sont rankés de 1 à 1000, tout ça, puis c'est comme dans des tables que tu peux classer comme tu veux pour checker les films que t'as vus puis les films que t'as envie de voir. Puis c'est ça, il a été mis à jour il y a pas longtemps. Puis ils font aussi, étant donné qu'il y a un biais positif envers les films qui, les classiques consacrés qui ont déjà quand même un certain âge, ben il y a aussi un volet sur le site web qui se consacre exclusivement aux films du 21e siècle. Donc là, il y a une liste de comme 250 films qui sont, c'est ça, classés selon toutes les listes de critiques de ci, de ça, qui ont réussi à compiler. Et là, j'ai fait ça un petit calcul, et puis là, moi, je suis arrivé, et puis là, j'ai regardé le top 500, par exemple, dans Deschutes Pictures, puis il me manquait 103 films à voir. Donc, j'en ai visionné, depuis que j'ai regardé ça, j'en ai visionné deux, mais je veux parler de un en particulier qui a vraiment capté mon attention cette semaine. Puis c'est, quand je dis classique, c'est vraiment classique, classique, là. Je parle d'un film de 1932. Je parle de Freaks de Todd Browning. Est-ce que vous l'avez vu, les gars?
Oh oui!
Moi, je l'ai toujours pas vu, non?
Mais t'as vu des extraits, quand même.
Ouais, ouais, je sais c'est quoi le concept, un peu, puis j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois.
T'as-tu vu la cigarette? L'homme tronc qui allume une cigarette en se pliant, là. C'est vraiment non, malade, ça.
Ah ouais, ça, c'est...
c'est une grande scène, là.
Mais tu sais, c'est que un des points qu'on peut souvent critiquer le cinéma hollywoodien, surtout à l'avènement du parlant, c'est que tu sais, ce sont des films qui sont très formatés. T'es encore en 1932, on est encore en période un peu d'apprentissage de comment dompter la nouvelle technologie avec le son.
Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, aussi, c'est que l'arrivée du son, ça a causé beaucoup de problèmes au niveau des caméras, en fait. Puis c'était beaucoup plus statique. Fait que ça a été compliqué avant de retrouver une espèce de fluidité qu'on avait atteint dans la fin du muet avec des films comme Sunrise, par exemple, qui est le meilleur exemple.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais en 1932, il y a deux films hollywoodiens qui... Moi, ben, en 1931, il y a le film M le maudit de Fritz Lang, qui, moi, tant qu'à moi, c'est genre... Tu sais, on dirait que Fritz Lang, il a passé à l'avènement du parlant, là, tellement de façon smooth, parce que M le maudit, encore aujourd'hui, il me semble que tu le réécoutes, puis c'est un film qui a une vraie vision artistique, les mouvements de caméra sont hallucinants, le storytelling est vraiment complexe, puis en plus...
Vraiment avant son temps, là.
Ah, vraiment avant son temps, là, ça, c'est... D'ailleurs, M le maudit, je pense que c'était les boss de MGM qui quand ils l'ont vu ce film-là, ils l'ont fait écouter à tous leurs scénaristes in-house, parce que dans le temps de Hollywood classique, les scénaristes et les réalisateurs, c'était comme toute partie d'une écurie là, dans les majors, même les comédiens, c'est les comédiens signaient des contrats. Fait que qu'est-ce qu'il a fait en fait le boss de MGM, il a fait écouter M le maudit à tous les scénaristes, puis il a dit comment ça que vous êtes pas capable d'arriver avec des films aussi bons que ça, nanana. tu sais ça pour dire non, M c'est vraiment en avance, mais à Hollywood en 1932, moi je trouve qu'il y a deux films américains qui ont vraiment un peu monté le niveau, si je peux dire. Je dirais que c'est peut-être le film de Ernst Lubitsch, Trouble in Paradise. Ça fait quand même longtemps que je l'ai vu, mais ça c'est un film qui est une espèce de thriller romantique, sexy, très très pré-code ACE, là, pré-code censure. Puis c'est un des films qui avait fait un tabac, ça avait été un gros succès critique et populaire, mais quand ils ont resserré la censure en 1935, si je ne me trompe pas, ben là après ça, le film il a comme été semi-perdu, puis on l'a seulement retrouvé beaucoup plus tard. Ça, c'est un des grands films de Lubitsch. Mais la même année, il y a vraiment le film Freaks de Todd Browning. Puis moi, il m'a complètement abasourdi. Puis c'est vraiment le film américain de ces années-là que je suis content qu'il existe, en fait.
Ben, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, en fait, c'est que, tu sais, disons plus techniquement, c'est la carrière de Todd Browning. Avant, il était dans de l'horreur un petit peu plus classique, là, tu sais, des récits. Ben, il venait de faire Dracula en 31. Puis en 27 aussi, il a fait un film qui s'appelle London After Midnight, qui était une des incarnations les plus connues de Lon Chaney, là, qui changeait son visage pour avoir vraiment incarné des monstres. Puis on dirait que Freaks, c'est comme vraiment en marche parce que c'est tellement edgy, c'est rarement abordé. On dirait un film de David Lynch de son début de carrière. Là.
Justement, il me semble avoir lu quelque part que l'homme éléphant
était probablement très inspirant en fait de Freaks, puis ça a sûrement inspiré la carrière de Lynch, mais... C'est un film qui détonne tellement avec tout ce qu'il faisait. Puis, tu sais, dans le monde de l'horreur à cette époque-là, c'était vraiment l'histoire classique. Puis, c'était les monstres Universal qui sortaient, Frankenstein, Dracula, la momie. C'était vraiment. Tu sais, on était dans vraiment la formule très, très, très classique, côté littérature aussi. Puis là, on arrive avec un film comme ça qui est... C'est vraiment, vraiment en marge de tout. Là.
Puis aussi, je pense que ce qui distingue beaucoup ce film, c'est qu'à l'époque, la renommée des films d'horreur, ça se jouait beaucoup sur les effets spéciaux, sur les maquillages, sur les effets visuels, tandis que ce film-là, finalement, c'est qu'il va vraiment prendre des gens, disons, déformés ou difformes ou handicapés.
Oui, c'est ouais. Ça. Ben, en fait, l'histoire du film, c'est un peu l'envers du décor, parce que, puis même c'est littéralement l'envers du décor d'un cirque ambulant, parce qu'on voit jamais les performances de cirque. On est tout le temps dans les coulisses avec cette espèce de troupe ambulante-là. Puis il y a même un côté un peu incestueux à travers, parce que tu sens que c'est une troupe de cirque tricotée hyper serrée, que les uns couchent avec les autres, puis que les uns, tu sais, ils convoitent un puis l'autre, mais tu sens que c'est vraiment une grosse famille. Et puis là, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que t'as une trapéziste, Cléopatra, qui est bon, une belle trapéziste, mais qui est un peu amorale, puis qui sait qu'elle est belle, puis qui profite un peu de ça à son avantage. Puis il y a un nain qui est quand même fortuné, parce que je pense que c'est un peu flou, c'est quoi exactement son statut à ce fameux nain-là.
C'est un peu une des vedettes de la place, une des vedettes
ouais, c'est du cirque, ça. Là. Exactement. Puis là, dans le fond, lui, il la trouve bien belle, la Cléopâtre en question. Il commence à lui faire des avances. Puis l'autre, ben, elle se moque de lui, mais sans que lui le sache. Puis là, tu sais, au début, ça devient un peu un jeu, puis elle rit de lui derrière son dos. Sauf que là, elle finit par apprendre que le nain, va hériter, dans le fond, d'une fortune. Et puis là, elle concocte un plan diabolique avec un autre, l'homme fort du cirque, là, avec qui elle entretient une relation extra-conjugale, là, si on veut, pour justement assassiner le nain en question. Mais là, après ça, en tout cas, là, après ça, ça devient un film de vengeance, puis comme là, les freaks vont tout un peu se revirer contre un puis l'autre, puis c'est... En tout cas, moi, à tous les détours scénaristiques, je me disais, ben voyons donc. Mais ce qui le distingue, je crois, ce film-là, c'est que, oui, on est peut-être dans un cinéma, en 1932, un cinéma américain qui cherche sa place d'un côté stylistique, d'un côté mouvement de caméra et tout, mais... Dans Freak, c'est pas nécessairement les mouvements de caméra qui sont hallucinants, c'est vraiment ce qui est devant la caméra. Il y a une spontanéité parce qu'il travaille réellement avec des gens, avec des déformations physiques, avec des handicaps mentaux. Puis il y a une espèce de spontanéité à l'écran qu'on retrouve virtuellement pas dans le cinéma américain de ces années-là.
Mais c'est du monde qui aurait jamais été devant les caméras, tu sais. Aujourd'hui, tout le monde finit devant une caméra à un certain point avec la technologie, mais à cette époque-là, un freak peut pas se retrouver devant une caméra. C'est impossible qu'il devienne une star, là. Puis ouais. Lui, ben, il a décidé de le faire. Todd Browning a eu le edge d'y aller, là.
Mais qu'est-ce que vous pensez de... Parce que c'est encore une fois, le film... encore de nos jours, il y a un peu une espèce de controverse morale dans le sens que est-ce que c'est pas de l'exploitation, justement, de vouloir un peu utiliser ces personnes-là qui sont pas nécessairement favorisées par la vie?
Ben moi, j'ai lu sur le film parce que je le trouvais tellement fascinant. Puis je me suis rendu compte que Todd Browning a vraiment entretenu une vraie relation avec eux, ce qui était rare pour un réalisateur. Tu sais, souvent, ces réalisateurs, dans ces années-là, ça faisait 3 films par année, puis c'est un peu plus la commande avec des scénaristes attitrés, puis c'est quasiment plus le producteur qui est puissant. Mais là, j'ai lu que le producteur a vraiment laissé un peu carte blanche à Todd Browning en disant « il sait ce qu'il fait », puis il y avait de la pression de d'autres des exécutifs du studio pour essayer d'un peu de freiner le film. Puis là, le producteur était vraiment « non, Todd Browning, il sait ce qu'il fait, nanana ». Puis le réalisateur, il y a vraiment une espèce de souci qu'on retrouve très rarement dans le cinéma américain de ces années-là. Puis un fait étonnant aussi, c'est que la comédienne qui joue la Cléopâtre, au début, elle avait refusé le rôle, elle trouvait le script offensant, elle voulait pas non plus se prêter à ce film-là. Puis Todd Browning, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a juste dit « fais-moi confiance », puis il est allé avec elle montrer ces fameux freaks-là, donc des personnages avec différentes difformités. Puis elle a été tellement chamboulée, puis elle a tellement été brassée par tout ça, qu'elle a décidé de le faire un peu pour la cause, dans le fond, pour faire quelque chose d'extraordinaire avec ces personnes-là. Mais... ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il ait développé un côté humain avec ses sujets, dans un sens. Puis, de ce que j'ai lu, supposément qu'il l'aurait bien fait, ça. Puis, je pense que ça paraît dans le film.
Pour eux, c'était déjà ça, leur vie, en fait. C'est vrai, c'est des freaks de cirque. Ils faisaient ça de leur vie. Je dis pas que c'est glorieux comme vie, là, mais tu sais, c'était ça qu'ils faisaient. C'est juste qu'ils le faisaient pas en cinéma devant des caméras. Mais ouais. Déjà, là, ils leur offraient une performance qui était déjà plus saine, je pense, que se faire garrocher des pinottes dans un zoo. Là.
Ouais, c'est ça. Ouais, ben oui.
Bref, disons que Freaks It Out Running, un film que tu conseilles grandement, Pascal.
Ah ouais, moi, ne serait-ce que pour la surprise puis le vent de fraîcheur. Puis ça fait drôle de dire vent de fraîcheur pour un film de 1932, mais vraiment, j'ose le dire.
Ouais, ça s'écoute encore bien aujourd'hui, c'est
oh
sûr.
Oh my God. C'est un film de comme 1h05 aussi, là. Ça s'écoute. T'sais, c'est un film qui est relativement court. Puis, je vais juste finir sur un trivia étonnant. Il y a une dame qui a poursuivi MGM, puis le studio, puis le réalisateur, parce qu'elle a fait une fausse couche, puis elle a dit que c'était à cause de l'émoi puis de la nature offensante du film qu'elle aurait fait sa fausse couche, puis elle a traîné le studio en cours à cause de ça. Ouais.
Mais les Américains, le système judiciaire est toujours une excuse pour poursuivre quelqu'un de riche.
Non, c'est ça, c'est l'an passé, on poursuivait l'équipe du film de Drive parce que le trailer était pas à l'image du film. Ben, en 1932, mm-hmm. on poursuivait les films parce qu'on faisait des fausses couches, tu sais, mais comme quoi les choses changent, plus ça change, plus c'est pareil, là, tu sais. Ouais.
Sinon, qu'est-ce qui se passe dimanche dans le monde du cinéma? Il y a un petit événement assez couru, je crois.
Oui. C'est quoi?
Les Oscars.
Je le savais, je faisais exprès.
Donc, Pascal, ben toi, t'aimes ça de jouer au jeu des prédictions, en fait. Donc, on va un peu parler de peut-être nos prédictions pour les Oscars, parce que, bon, dans un sens, c'est pas nécessairement... Pour moi, ça fait longtemps que les Oscars, c'est pas nécessairement une parole d'évangile. Ça veut pas dire, meilleur film, je prends ça qu'un grain de sel. Là, je veux dire, c'est... Bon, pour ce que ça vaut, les Oscars, quand même, c'est un bon indicateur de ce qui se fait de mieux un peu dans le cinéma américain, avec un grain de sel.
Avec un grain de sel.
Mais bref, on va quand même partager nos prédictions, les films qu'on croit qui vont être nommés comme gagnants des différentes catégories. Et je pense qu'on va plus y aller vers ce qu'on prévoit qu'il va gagner versus ce qu'on pense qu'il devrait gagner.
Ouais, c'est ça.
Il y a une petite distinction à faire ici. Là.
Même qu'il y a une bonne distinction dans bien des cas. Je veux juste rappeler les nominés, comme, par exemple, comme meilleur film. On a Amour de Michael Haneke, qui est un peu un... C'est pas un sans précédent, mais c'est très rare qu'un film en langue étrangère soit nominé comme meilleur film. Donc, il y a Amour.
Fait que soit nominé deux fois, en fait, meilleur film puis meilleur film étranger, ça, c'est quand même étrange. Là.
Ouais, c'est quand même étrange.
Ça donne une chance de gagner deux fois meilleur film.
Ouais. Oui, c'est quand même, oui. Donc, Amour, il y a Argo, il y a Beasts of the Southern Wild, qui est un petit peu comme la surprise, mais je pense que ça a été vraiment accueilli à bras ouverts là, par les cinéphiles puis les gens de... Parce que, en tout cas, c'est un film extraordinaire. Django Unchained, Les Misérables, Life of Pi, Lincoln, Silver Linings Playbook et Zero Dark Thirty. Maintenant, de ces 9 films-là, il y a 5 de ces films qui sont aussi nominés comme meilleure réalisation. Je parle de Michael Haneke pour Amour, Ben Zeitlin pour Beasts, Spielberg pour Lincoln, David O. Russell pour Silver Linings Playbook, puis un peu j'en oublie un.
Et Ang Lee pour Life of Pi.
Et Ang Lee pour Life of Pi, c'est ça. Donc Argo est étonnamment pas nominé comme meilleure réalisation. Par contre, moi je crois quand même que ça va être Argo qui va gagner meilleur film. Je pense que les précurseurs nous laissent présager ce scénario-là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez en fait.
Moi je suis entre Argo puis Lincoln en fait. C'est plate parce que c'est deux films que j'ai pas tant apprécié, mais j'ai vraiment l'impression que ça va se jouer entre ces deux-là.
Ouais, je pense que Argo en ce moment c'est vraiment le film qui a le plus de buzz dans les parce que tu sais il y a comme la tout ce qu'on appelle la route vers les Oscars là aux États-Unis, puis c'est comme tous les espèces de parce que chaque dans le fond discipline ont leur propre gala, donc tu sais le gala des scénaristes, le gala des réalisateurs, etc. Puis c'est vraiment Argo en ce moment qui est après tout raflé là, donc ça serait quand même assez surprenant qu'un autre film gagne. Si ça serait un autre film, moi je tendrais vers c'est ça peut-être Lincoln et sinon peut-être Amour, mais ça me surprendrait bien gros
qu'Amour. Non, pas Amour en Best Picture, je pense pas.
Mais un film que moi, à toutes les fois que je le dis, je trouve ça un peu, ça sonne comme une phrase non grammaticale, tellement c'est aberrant, mais il y a un certain buzz autour de Silver Linings Playbook, hein, aussi. Ouais.
Donc, je comprends pas, ouais, ben, qu'est-ce qui se passe avec ce film-là?
Ben, tu sais,
qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On a parlé déjà en masse, mais c'est un chick flick. C'est quoi? Je comprends pas que ça puisse se rendre aux Oscars en Best Picture. Ça fait aucun sens.
Ben, il y a plusieurs femmes hein, dans l'académie qui votent, donc...
Non, mais c'est pas ça, moi, il y a pas de... 500 Days of Summer, où à chaque année, il y en a des bons, là. L'année passée, un de mes films préférés, c'était pas américain, en fait, c'était british, je suis désolé, mais c'était Like Crazy, qui était comme un film de romance, là, ben... Silver Linings, c'est ça, on en a déjà parlé, mais... C'est bien, je pense que c'est Bradley Cooper qui est peut-être le meilleur. Mais on va en revenir par meilleure actrice parce que tu sais là c'est probablement Jennifer Lawrence qui a des bonnes chances de remporter meilleure actrice. Puis ça tant qu'à moi, ça serait vraiment pour le voler entre guillemets un peu à Jessica Chastain ou même à n'importe qui dans le fond, tu sais même Naomi Watts dans un film misérable un peu comme The Impossible, là. C'était pas un bon film mais elle rehausse la qualité du film de façon extraordinaire. Puis pour de vrai, Naomi Watts est quand même très très bonne dans The Impossible. En fait, n'importe quel autre nominé pour moi, c'est
ben, Emmanuel Riva, puis la petite fille de Beast of the Southern Wild, c'est toutes des performances vraiment remarquables. Puis Jennifer Lawrence, elle joue la chicks d'un chicks flick. Fait que c'est ça qui fait pas de sens, là. Puis oui, effectivement, c'est probablement elle qui a beaucoup de chances de gagner.
Puis toi, Paul, meilleur film puis meilleure réalisation, tu penses que c'est qui?
Ouais, c'est le meilleur film, comme je disais, selon moi, c'est Argo. Okay. Meilleure réalisation, en fait, ben, c'est assez dur à dire, mais moi, je pense que Amour va récolter plusieurs prix importants, en fait. Parce que pour plusieurs raisons, c'est un film déjà. Ben, McAlenney est un peu. C'est le outsider, si on veut, peut-être avec Ang Lee, parce que c'est pas des Américains d'origine. Mais Michael Haneke rentre à un stade de sa carrière que, tu sais, il est dans ses derniers films, disons, il a un certain âge. Et puis, je pense que l'Académie va reconnaître un peu, parce que c'est souvent ça, en fait, les Oscars. On reconnaît l'ensemble d'une carrière, comme par exemple avec Scorsese qui gagne pour Departed, qui est loin d'être son meilleur film. Mais, tu sais, on était dû pour lui donner un Oscar. Donc, je pense que Michael Haneke est rendu à ce stade-là, que c'est un des cinéastes international les plus en vue, je pense, les plus appréciés, les plus respectés. Et puis, avec Amour, il livre un film vraiment plus sobre et moins choquant. Et puis, en plus, qui touche directement beaucoup de membres de l'Académie. Tu sais, c'est exact, vraiment... Ouais. Parce que ceux qui votent pour les Oscars, c'est vraiment une population âgée, à 90% blanche, à 90%, ben, tu sais, pas à 90%, mais beaucoup de juifs, beaucoup de personnes âgées, mâles. Donc, tu sais, je pense que tout ça, ça va jouer. Puis, moi, je verrais bien, en fait, Amour remporter réalisation, scénario. Et puis, peut-être l'actrice Emmanuel Riva, mais l'actrice, je dirais que c'est peut-être la catégorie, comme vous l'avez dit, qui est la plus disputée.
Ouais, c'est ça.
À peu près les cinq, pour moi, pourraient gagner, je serais pas surpris. Mon vote, ça serait vers Jessica Chastain, par contre, dans Zero Dark Thirty, qui est vraiment en maîtrise totale du film. Elle porte sur ses épaules très bien. Puis, acteur, pour moi, c'est vraiment entre deux personnes. C'est entre Daniel Day-Lewis pour Lincoln et puis Joaquin Phoenix pour The Master, mais je pense pas qu'il va l'avoir.
Non,
mais par contre, Daniel Day-Lewis, qu'est-ce qu'il pourrait jouer contre lui? C'est qu'il a déjà gagné deux Oscars pour le meilleur acteur.
Ouais. Mais Joaquin Phoenix, tu sais, je pense que The Master, c'est un film... Moi, je pense que The Master va quasiment repartir bredouille. Même Philip Seymour Hoffman, là, comme acteur de soutien, c'est vraiment pas certain là, qu'il va gagner. Il y a un gros buzz autour de Robert De Niro pour Silver Linings
Playbook. Hey, my God, ça fait pas de sens. Ça me décourage.
Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens.
Dans les acteurs, mais Daniel Day-Lewis, ça ferait quand même du sens. T'as raison, Paul. Là. Mais tu sais, ça se pourrait, même s'il a déjà gagné, je pense que ça se pourrait qu'il l'ait quand même. Là.
Ben ouais, parce que rendu là, je pense qu'on peut dire que c'est sûrement le meilleur acteur de sa génération.
Ouais, mais il y a pas cette buzz autour de Master pour qu'il y ait autant de prix autour. Puis... Mais moi, meilleure réalisation, je me suis pas prononcé, mais j'ai l'impression que Spielberg a quand même des chances.
Ouais.
Pas non plus que je trippe à fond sur Lincoln, mais... C'était dans l'air que ça, c'était fort possible qu'il remporte quelque chose avec ça. Là. Puis il y a beaucoup de buzz autour de Lincoln. Puis je pense pas Michael Haneke. J'ai vraiment l'impression qu'il le met en nomination pour la reconnaissance elle-même, mais je pense pas qu'il va se rendre à gagner. Ça serait vraiment malade. Là. Ça serait vraiment un beau scénario, mais je suis pas certain.
Parlant de scénario, justement, il y a une catégorie que je trouve qui est particulièrement forte cette année, que des fois, il y a certaines années où cette catégorie-là est moins solide, mais c'est le Best Original Screenplay. Je vais nommer les films qui sont nominés. Bon, il y en a un que j'ai pas vu, mais que selon beaucoup serait le moins fort là, des cinq, puis je vais le nommer en dernier. Mais tu sais, les quatre autres, là, dans le meilleur scénario original, t'as quand même Amour, Moonrise Kingdom, Zero Dark Thirty, puis Django Unchained. Tu sais, moi je trouve que c'est des films qui sont c'est quatre films extraordinaires, quatre films qui moi étaient dans mon je pense top 13 de l'année là, parce que Django était peut-être comme numéro 13 dans mon top. Puis il y a aussi le film Flight à travers tout ça, mais je trouve juste que quand même que c'est une bonne brochette, parce que des fois les scénarios originaux, il y a tout le temps comme 3-4 films que tu ou 2-3 films que tu sais pas trop. C'est pourquoi ils sont là. Là, cette année, je te dirais qu'il y a peut-être juste Flight qui fait un peu lever nos sourcils, mais les quatre autres, je pense que
c'est vraiment un bon scénario. Mais guys, Flight, je t'ai dit un œil, ça vaut la peine. C'est du gros cinéma américain, puis il y a quand même des twists assez classiques, là, mais ça s'écoute bien. Puis Denzel Washington, il est vraiment très solide dans son rôle. Je pense qu'il faut quand même donner une chance à ce film-là. Je pense pas que c'est un film qu'il faut vraiment comme accorder beaucoup d'attention, mais c'est quand même bon. Là. C'est Robert Zemeckis en arrière qui retourne à du cinéma réel, là, prise de vue réelle, puis ça fait du bien à regarder. Là.
Ouais. Ah non, je suis sûr. Une catégorie que je pense que, bon, il y a vraiment pas pas de grande discussion sur qui va l'emporter. C'est meilleure actrice de soutien, je pense que c'est Anna Tawai. Ouais. Par contre, j'ai lu dans certains sites qu'il y a, un gros buzz autour de Sally Field pour Lincoln. Puis moi, personnellement, autant que j'adore Les Misérables, c'est un film que je défends énormément, je trouve que sa performance, on en sort, puis c'est ça qui est mémorable. Mais je reviens à Amy Adams dans The Master. Moi, je trouve que c'est aussi une des plus grandes performances de l'année. Donc, juste encore une fois, d'avoir deux performances peut-être aussi extraordinaires dans la même catégorie comme actrice de soutien. En tout cas, je pense que je trouve que c'est un nez à nez qui est assez impressionnant là, cette année. Ouais. Pour.
Mais selon moi, quand même, je pense que Anna Tawai, ça fait longtemps, je pense que le score va lui être décerné quasiment par défaut. Ben, pas par défaut, mais je pense que le film, sa performance est tellement soulignée dans le film par le montage. Un seul plan pour A Dream a Dream.
Ouais.
Donc, je pense que c'est comme acquis. Si y a deux catégories, selon moi, qui sont vraiment sans surprise, ce serait si j'avais gagé de l'argent, mettons. Là, mais je veux dire, je cautionne pas les gageurs. Là. Mais actrice de soutien, Anna Tawai, et puis meilleure chanson originale, Skyfall d'Adèle. Je pense que comme les deux catégories, c'est presque ça, avec ces deux-là.
Mais Day Lewis, comme meilleur acteur, je pense que rendu là aussi, on peut dire que c'est assez dans le sac. Puis, meilleur film en langue étrangère, il y avait tout le temps le débat à savoir si Amour allait diviser son vote parce qu'il est dominé aussi dans le meilleur film. Mettons qu'on enlève Amour, là. T'as le film Kon-Tiki de Norvège, là, le film sur la traversée, en tout cas, ça a l'air super bon, je l'ai pas vu. T'as le film No, le film chilien de Pablo Larraín, qui est un bon film, mais sans plus, à mon humble avis. Il y a Royal Affair du Danemark, qui est un bon et beau film, mais sans plus. Puis il y a Rebelle. Fait que, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est un peu fou de penser, puis, comme j'ai dit, Kon-Tiki, je l'ai pas vu, puis supposer que c'est vraiment extraordinaire, mais si jamais, pour X raison, le vote d'Amour est divisé, est-ce qu'on peut, tu sais, à quel point qu'on peut penser que c'est possible ou pas? Peut-être pas, là, mais...
Non, mais je pense qu'il y a quand même des bonnes chances, là, puis, tu sais, par rapport à... Des fois, il y a des films québécois, comme tu sais, Monsieur Lazare se ramasse aux Oscars. Pour moi, je trouvais pas qu'il y avait beaucoup de chance, mais bon, c'est peut-être très personnel, mais il me semble que le genre de film qui marche aux Oscars en langue étrangère, c'est souvent des films de guerre, c'est souvent des films durs. Tu sais, on pense à, mettons, La vie est belle, c'est un exemple, tu sais, que lui, il était gagné plusieurs prix, pas juste le prix de meilleur film étranger. Donc, pour moi, c'est ça. Je pense que War Witch a quand même beaucoup de chance de gagner, mais c'est ça, il y a le mastodonte Amour à côté, donc c'est un peu le seul obstacle.
Mais tu sais, l'an passé, il y en avait un autre qui était assez consacré dans cette catégorie-là, c'était A Separation d'Asghar Farhadi. Monsieur Lazare, t'es déjà que je pense qu'il était peut-être pas dans les 2-3 concurrents de tête avec un film comme A Separation dans le décor, là, je pense que
juste d'être là... Moi, tu te fais ramasser assez rapidement. Là.
Ouais, ben, en tout cas.
Une catégorie là, que j'aimerais vraiment ça qu'un film gagne, même si c'est pas un film que j'adore particulièrement, c'est Prometheus pour les effets visuels.
Ah,
parce
ouais.
que s'il y a de quoi vraiment là, qu'on peut dire que c'est sans faille, là, c'est vraiment le côté... tous les effets spéciaux dans Prometheus, c'est hallucinant. Puis, tu sais, au point que j'aimais mieux regarder les images, la bande-annonce du film que le film en tant que tel.
Mm-hmm.
Donc, je serais déçu que ce soit un autre film qui l'emporte que Prometheus là-dedans.
On va les nommer, là. C'est les
autres... Il y a Hobbit, Life of Pi, The Avengers et Snow White and the Huntsman.
Snow White and the Huntsman.
Ben oui, Prometheus, c'est que c'est super réaliste. À The Avengers, il y a des effets spéciaux assez malades, mais c'est qu'on tombe dans un monde très cartooniche. Fait que c'est là qu'on perd peut-être le petit edge que Prometheus a, mais ouais. Avengers, il y avait quand même une couple d'affaires assez spectaculaire dans les effets. Là. Espèce de plan séquence qui se promène au travers de la ville pour aller chercher tous les Avengers qui se battent ensemble. Puis il y avait une couple de. Mais c'est sûr que Prometheus, c'est des vaisseaux spatiaux.
mais je trouve aussi que Prometheus, il y a plus une signature visuelle. Il y a vraiment une cohérence. Tandis que le meilleur exemple, je pense, c'est The Hobbit. Je trouve que c'est vraiment uneven. C'est vraiment. Il y a des moments qui sont vraiment plus forts que d'autres. Puis d'autres qui ont carrément l'air. La poursuite dans les mines, autant je trouve que la séquence est le fun à vivre. Puis à regarder, autant ça fait vraiment. C'est un peu jeu vidéo. Là,
décor en 3D, puis les bonhommes qui sont pluggés sur green screen. Là.
Ouais, c'est ça.
Il y a une catégorie aussi qui est très chaudement disputée. Hein, c'est la catégorie meilleur long métrage d'animation. D'un côté, sur certains sites de prédiction, ils disent que Brave peut gagner. D'un autre côté, il y a certains qui disent Frankenweenie. D'un autre, Wreck-It Ralph.
Oui, mais c'est parce que cette année, c'est comme tous des films, tu sais, bons, mais pas assez spectaculaire pour qu'il y en ait un qui sorte, tu sais, comme les c'est années ça. Où Pixar sort un gros film, là, genre Wall-E ou genre ouais. Trouver Nemo, tu sais que ça va être ça. Mais là, cette année, c'est, tu sais, il y a un moyen Pixar. Y a, à côté, il y a Frankenweenie, Paranorman, deux films, trois films en fait en stop motion quand même, hein, The ouais. Pirates aussi. Ouais, actuellement, ouais. on est plus dans l'animation 3D, puis on a trois stop motion, c'est vraiment
3,
cool.
3 sur 5.
Wreck-It Ralph qui a des bonnes chances d'après moi aussi.
Ouais, moi j'irais pour Wreck-It Ralph si j'avais à prédire. Puis Wreck-It Ralph qui serait et ma prédiction et celui que j'aimerais voir remporter. Mm. Mais encore une fois, vois-tu, ça c'est une catégorie qui est assez ouverte. Mais en général, cette année, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de catégories un petit peu comme ça. C'est étonnant, hein?
J'espère que ça va surprendre nos Oscars. Tu sais, Animated Feature, moi j'ai plus l'impression que ça va être Brave, là. Ouais. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir une surprise, avoir Frankenweenie qui gagne ou quelque chose comme ça. Ça serait vraiment cool d'avoir le petit edge à la cérémonie, mais ouais, je pense qu'on va rester dans des trucs plus standards, là.
Mais d'ailleurs, anecdote, tu sais, c'est Harvey Weinstein, il gagnait un prix il y a une couple de semaines, je pense, quelque chose comme le Producer Life Award, quelque chose comme ça. Et puis il disait que pour lui, c'était la meilleure année du cinéma américain en 90 ans. Puis la Weinstein Company, cette année, ils poussent pour Django Unchained et Silver Linings Playbook. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est la meilleure année du cinéma américain en 90 ans? Je pense pas, mais force est de constater qu'il y a quand même plusieurs films de qualité qui se retrouvent aux Oscars. Il y a peut-être aussi le fait que maintenant, tu sais, depuis deux ans, ou sa troisième année maintenant, qu'il y a plus que cinq nominés, ça aide peut-être à mettre des films en valeur qui auraient passé inaperçus avant. Mais non, c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories qui sont chaudement disputées, même si selon moi, globalement, ça va se jouer pas mal entre Lincoln puis Argo, avec des prix techniques, mettons, à différents films, là.
Mais on en avait parlé un petit peu dans notre rétrospective de 2012, dans les premiers podcasts 43-44, je pense. Tu sais, moi aussi, je trouve que c'est une grosse année pour le cinéma américain. Comme dans mes films favoris de l'année, t'avais quand même des films du genre, tu sais, Moonrise Kingdom, The Master, Zero Dark Thirty, puis, tu sais, c'est proche des meilleurs films qu'on a cette année. Puis, effectivement, il y a quand même une bonne profondeur. Après ça, il y a beaucoup de films, c'est varié. C'est vrai que c'est une grosse année pour le cinéma américain. Comme je te dis, je sais, moi, en 90 ans, je suis pas sûr, là. Je pourrais te nommer juste rapidement comme ça. En fait, j'avais compilé ma liste de 1995, puis ça, c'était une année absolument géniale, là. Un peu, je vais la ressortir. T'avais genre Welcome to the Dollhouse, Before Sunrise, Safe. Il y avait Braveheart, là, genre Heat, ouais. Las Vegas, aussi. Casino, il y en avait, là, puis j'en passe, là. C'était vraiment, c'était une espèce d'année pas de bon sens. Mais bref, c'est vrai que c'est une forte année cette année. Allez, une catégorie que j'ai envie qu'on discute un petit peu, c'est Best Original Score. On a Anna Karenina, la musique de Dario Marianelli, Alexandre Desplat pour Argo.
Alexandre Desplat pour genre trois quarts des soundtracks cette année. Là.
Ouais, mais il est nominé juste
pour. Il semble qu'il en fait tellement, Alexandre Desplat, c'est rendu la grosse star au niveau de la musique. Là.
Mais c'est quand même, moi je trouve que c'est mérité. Là. C'est vraiment bon ce qu'il fait pour de vrai. Là. T'sais, c'est autant que, mettons, l'espèce de gros boss pas de bon sens autour de Hans Zimmer, je le trouvais un petit peu exagéré, qu'Alexandre Desplat.
C'est de la bonne musique. Il y a quelques-uns de ses soundtracks qui se ressemblent quand même, là. Mais overall, ouais, c'est vraiment de la bonne musique. Là.
Il y a Life of Pi de Michael Dana, il y a Lincoln, John Williams, et Thomas Newman pour Skyfall. Vous pensez que qui va l'emporter pour la meilleure musique originale?
Moi, en fait, je sais pas si c'est un vœu pieux, mais je verrais bien, en fait, Dario Marianelli pour Anna Karenina remporter. Mm-hmm. Parce que, vraiment, premièrement, comme quelqu'un comme Alexandre Desplat dans Argo, il y a presque pas de musique dans Argo, tu sais. Donc, je trouve ça, même le fait qu'il soit nominé, selon moi, c'est plutôt à cause du fait que le film est très populaire.
Il y a pas de musique, mais il me semble toutes les scènes d'action montées en montage parallèle, il y a comme une espèce de toune. Qui tient toujours l'attention. Là. Il a fait la musique de Zero Dark Thirty aussi, puis c'est la même musique. Là. Quand je parlais des soundtracks, ça ressemble, c'est un peu ces deux-là cette année, là, qui, d'après moi, se ressemblent beaucoup, mais il me semble qu'il y a quand même de la musique là, dans toutes les scènes d'action. Là, t'as comme le petit buzz en arrière. Là.
Ouais, mais c'est comme juste un peu la musique de. Je sais pas comment expliquer ça, puis tu sais, je suis pas non plus un musicien, fait que peut-être que genre je vais enrager plusieurs personnes qui m'écoutent, mais il me semble que pour moi la musique dans ce genre de film, c'est moins important, tu sais, puis c'est moins un accomplissement en soi que ce que Dario Marianelli a fait avec Anna Karenina.
C'est sûr, mais c'est pas de même que les gens aux Oscars vont penser malheureusement là, parce que moi tout j'irais pour Anna Karenina, mais tu sais, Argo c'est fort possible, vu qu'Alexandre Desplat, je pense pas qu'il a gagné d'Oscar encore, hein.
Non, je sais pas, en fait, faudrait juste vérifier, mais le compositeur Michael Dana, qui a fait Life of Pi, c'est la première fois qu'il est nominé aux Oscars, puis c'est quand même un compositeur qui a vraiment, vraiment beaucoup de carrière. Il avait fait, entre autres, la musique du film canadien d'Atom et Goyan, The Sweet Hereafter. Il a fait la musique de Moneyball, là, il y a pas longtemps aussi, mais il en a fait plein d'autres. Puis lui, c'est sa première nomination. Puis moi, c'est drôle, moi, je pense que c'est peut-être Life of Pi qui va l'emporter. Maintenant, c'est que j'aimerais qu'il l'emporte. Je pense que je te rejoins, Paul. J'aimerais beaucoup que Anna Karenina remporte. En fait, pour être bien franc, j'aimerais qu'Anna Karenina remporte à peu près toutes les catégories dans lesquelles, elle est dans lesquelles le film est nominé.
Mais je trouve pas que ça vole super haut, cette catégorie-là, cette année. C'est un peu décevant. Même John Williams, en fait, qui fait des scores quand même assez incroyables. D'habitude, dans Lincoln, c'est tellement plate son score. Là. Ça sert le film, ça sert très très bien le film, mais c'est juste boring. Ça mérite pas un prix. Là, c'est un peu pour la forme de nominer John Williams aux Oscars. Là.
Ouais, d'ailleurs là, une aberration, je trouve, dans cette catégorie-là. Peut-être ma plus grande déception, c'est que où est Johnny Greenwood pour The Master?
Ouais, ça, il y a
qui, pour
ça.
Moi, fait vraiment un travail atypique et intéressant et original. Puis pour moi, c'est ce genre de travail-là qui avance un peu le médium puis qui propose des trucs. C'est un peu comme le mec qui a travaillé avec David Fincher pour Social Network.
Voyons,
Nine Inch Nails, Trent Reznor.
Ouais, c'est ça, ouais, Trent Reznor.
Ouais. Tu sais, ça, c'était, je trouvais que c'est le fun comme soundtrack. Puis encore là, tu sais, c'est peut-être mon ignorance qui parle, mais il me semble que ça faisait différent de ce qu'on voit d'habitude aux Oscars. Tandis que, fait que c'est pour ça que moi, j'aurais nominé, en fait, Johnny Greenwood pour The Master.
Excusez, mais moi, je veux revenir, mais Walter Murphy pour Ted. Ted qui est comme. Tu sais, c'est sûr que ce soundtrack-là n'a pas été pris en considération à cause du film. Tu sais, c'est. En tout cas, le soundtrack est vraiment malade, puis c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, justement, de retourner aux vieilles orchestrations, puis utiliser un big band orchestral, là, c'est super jazzy. J'ai jamais entendu un soundtrack de film comme ça, c'est vraiment comme la musique de Family Guy, puis ça sort de l'ordinaire pour une comédie, puis ça marche super, super bien avec le film. Puis, tu sais, même si c'est un film cave, la musique est excellente, puis... C'est plus ça qu'on aurait besoin dans la catégorie. Sinon, le reste, c'est très décevant. Puis, je veux juste en revenir à Alexandre Desplat. Ça fait 5 fois qu'il est nominé. Depuis 2007, en fait, qu'il est nominé. Ça fait 5 fois, puis pas encore gagné. Moi, j'ai un peu l'impression que ça va être Argo, là, mais...
D'ailleurs, John Williams, c'est sa 20e nomination, parce que c'est lui qui a le record du plus grand nombre de nominations, je pense,
aux Oscars.
Il me semble, toutes catégories confondues.
Il a gagné 5 Oscars. Puis là, je suis sur sa page IMDb, puis je peux même pas les compter, il y en a tellement. Là.
Mais vraiment, je trouve qu'il s'est pas inspiré dans Lincoln. Je veux juste finir là-dessus parce que, tu sais, il est capable de. C'est sûr qu'il est peut-être plus reconnu pour ses espèces de. Tu sais, ses musiques plus de blast orchestral, là, John Williams, on s'entend, tu sais, sa signature est peut-être plus là. Mais même quand il fait quelque chose d'un petit peu plus terre à terre, d'un petit peu plus émotionnellement chargé, tu sais, ce qu'il a fait là, pour la liste de Schindler, c'est juste magnifique, puis c'est
très, très, très doux, c'est tout en douceur, là. C'est mais ça. Ouais, Lincoln, il y a deux styles. Il y a le style des notes super longues qui est très endormante, là. Puis il y a le style campagnard de fin 1800 là, avec les violons puis les banjos, là. C'est un petit peu douteux, là. Ça clash beaucoup avec le mood du film, là. Je l'ai trouvé, c'est sa 48e nomination aux Oscars.
Incroyable, c'est un record qui sera jamais battu, là.
Mais non, c'est impossible.
À part ça, sinon dans les derniers jours, moi et Pascal, on a pu voir deux des cinq films nominés aux Oscars, c'est-à-dire deux des cinq documentaires nommés aux Oscars. Donc, The Invisible War et Searching for Sugar Man, les deux qui sont d'ailleurs disponibles en DVD en location et pour acheter. On va commencer par The Invisible War. Pascal, qu'est-ce que c'est le film The Invisible War? C'est à propos d'un sujet très tabou, les victimes de viol au sein de l'armée américaine. Donc, un sujet très, très fort, évidemment. Qu'est-ce que tu as pensé du film, Pascal?
C'est drôle parce que j'étais encore un peu à chaud parce qu'on l'a écouté hier soir ensemble, Paul. Pour le film est un film important. Si le film remportait l'Oscar, je serais pas complètement en désaccord parce que je pense que ça jette un voile de lumière sur un sujet dont on doit discuter. Puis c'est un film qui peut changer les choses. Puis ça, je pense que Paul, on va sûrement revenir parce que là, je m'en vais plus dans le côté négatif de la chose. Par contre, j'ai vraiment pas trouvé que c'est un film qui est à la hauteur de plein de points de vue, ne serait-ce que d'un point de vue visuel puis de la façon comment que le film est fait. Je veux dire, c'est extrêmement TV, là. Ça pourrait être un one-hour special à la télé un dimanche après-midi, là. C'est que des entrevues puis tout ça. Mais moi, pourquoi j'ai pas vraiment aimé le film, ça va beaucoup plus loin que ça. c'est en fait, je trouve que le film est a énormément de parti pris parce que évidemment c'est facile de démoniser les gens qui commettent les viols, puis tu sais, je suis pas en train de prendre défense, mais je suis en train de dire que je pense que pour qu'un documentaire soit vraiment lucide puis fasse état de façon à 360 degrés, là, de façon tridimensionnelle, de quelque chose d'aussi complexe, on doit au moins essayer de comprendre un petit peu c'est quoi c'est quoi le milieu dans l'armée, qu'est-ce qui fait que c'est beaucoup plus fréquent que dans d'autres milieux, puis un petit peu essayer de se retrouver dans la psychologie de la personne qui va commettre cet acte-là. Le film le fait un minimum, mais le fait pour moi de la pire des façons possibles, puis c'est avec quelques experts en psychoanalyse qui disent les rapistes, ils vont récidiver, c'est comme ça, ça fait ça. Puis là, ils sortent des statistiques de traditional rapists will have it can be common that they have 300 victims in their lifetime, puis tout ça. Puis tu sais, c'est des statistiques choc, mais
le 300 film, c'est de la folie.
C'est pas ça la question. Puis je sais que c'est fou là, mais il n'y a pas une volonté d'aller plus loin. Fait qu'on est complètement du côté des victimes, puis on est du côté pleurnichard de la chose. Maintenant, c'est sûr que c'est émotivement comme c'est hyper difficile là, puis je le sais, puis c'est correct, mais tu sais, moi j'appelle ça de l'exploitation de misère. T'as des talking heads, des fois ils vont juste garder un 4 secondes d'un talking head avec une femme qu'on n'a aucune idée c'est qui, si c'était pas son name tag dans le bas de l'écran, puis on a juste un moment où elle braille, puis après ça on next, puis on est rendu ailleurs avec une autre femme qui va dire la même chose. On en sait pas vraiment plus. Il y a juste quelques personnages qui vont être élaborés un petit peu plus, dont une en particulier qu'on suit là, qu'est-ce qui s'est fait violer, elle s'est fait frapper dans la mâchoire là, elle a plus de disque dans sa mâchoire, puis l'armée peut pas couvrir sa chirurgie, puis évidemment on est aux États-Unis, donc c'est des coûts médicaux qui coûteraient les yeux de la tête à un citoyen normal. Puis là elle essaie de se battre pour essayer d'avoir un certain support de l'armée. Et ce que le film met en lumière de façon très puis ce qui est très dark en fait, c'est que il y a vraiment pas de soutien à ces victimes là, puis c'est ça en fait le gros drame du film, c'est que au-delà des statistiques qui sont vraiment alarmantes, c'est que les victimes de viol vont souvent être une double victime parce qu'ils vont ensuite devenir une victime d'un système qui n'est pas à l'écoute, puis qui va vraiment quasiment les faire passer comme des criminels. Donc je pense que c'est ça qui est le plus enrageant de la chose. Puis le film suit quand même une personne qui va plus loin avec une des victimes, puis une chance, mais vraiment je trouve que c'est insuffisant, puis tu sais, c'est quasiment obscène la façon comment qu'on enchaîne les talking head pleureurs larmoyants d'un à l'autre. Puis je veux dire, ça sonne difficile là ce que je dis, puis ça l'est peut-être, mais
c'est vrai que puis ça sonne
ben ouais, en tout cas c'est qui sonne,
c'est pas moi.
Pas moi non plus. Bon, bref, fait que in a nutshell, c'est un peu ça pour moi, pour The Invisible War. J'ai trouvé que c'était un film. Que c'était un documentaire décevant à ce niveau-là. Là.
Ouais, moi, je vais te dire, ce serait dur pour moi de te reprendre sur chaque point négatif que tu as dit, parce que dans un sens, je suis pas en désaccord. C'est vrai que le film, bon, est totalement unidimensionnel. Il accuse beaucoup, puis il essaie pas vraiment de les comprendre. Plusieurs points positifs, cependant, pour ma part. Premièrement, justement, c'est le fun qu'on va au-delà du viol en tant que tel, puis qu'on aille vraiment s'interroger sur le système judiciaire, puis sur ce qui fait que ces victimes-là sont, tu sais, comme dans le fond, ce qui est le plus dramatique, c'est que ces victimes-là ont aucun recours. Parce que, comme ils disent, souvent, la personne, parce que, tu sais, le système judiciaire au sein de l'armée n'est pas le même que le système judiciaire civil. Donc, tu sais, la plupart du temps, pour reporter un viol, la personne à qui le reporter, c'est ton violeur, tu sais, ou un ami du violeur. Donc, c'est vraiment, en fait, une dénonciation du système de justice qui est vraiment intéressant, selon moi, puis qui est encore plus primordial, je pense, que de carrément seulement dénoncer, tu sais, certains abus puis des viols, parce que, je veux dire, la nature humaine, je veux dire, il y a toujours, tu sais, dans un sein d'une grosse organisation comme ça, il va toujours avoir des déviants, puis des personnes qui attaquent, puis qui en profitent. Mais quand un système de justice qui est inadéquat, c'est là vraiment la tragédie, selon moi. Ensuite, effectivement, il y a seulement une personnage vraiment qu'on suit plus que d'autres, et ça aurait été, moi j'aurais carrément là fait un tri, parce que comme tu dis, des fois il y a des montages là, qu'on voit plusieurs victimes une après l'autre. Mais pour un film comme ça, il faut aller au-delà des statistiques, tu sais. Puis il y a pas longtemps, je disais pour un de mes cours Mouse, c'est une BD sur l'Holocauste. Puis juste pour faire un parallèle, c'est que tu sais, l'Holocauste, bon, on n'a pas besoin d'expliquer ça plus en longueur, mais Mars, en fait, au-delà des statistiques, ça se concentre uniquement sur une famille, en fait. C'est là toute la force, en fait, de Mars, parce que c'est dans l'individuel qu'on va toucher l'universel.
Ouais, c'est ça.
Donc, vraiment, là-dessus, le documentaire aurait eu avantage à couper plusieurs entrevues et se concentrer peut-être seulement sur deux, trois personnes, tu sais. D'ailleurs, une des victimes les plus intéressantes, selon moi, avec laquelle on passe pas assez de temps, c'est un homme, en fait. Mm-hmm. Parce que, tu sais, on a tendance à uniquement penser, OK, ben si c'est des femmes qui sont violées parce que c'est un milieu ultra macho, beaucoup de testostérone, puis évidemment, t'as une femme dans un régiment d'hommes, disons qu'elle est... Elle est plus fragile, elle est plus... on peut facilement imaginer qu'elle subisse ça. Mais un homme, je trouve que ça choque plus dans un sens. Puis c'est un peu dommage de penser de même, en fait. Mais vraiment, moi, ça m'a touché quand il y a eu l'entrevue avec l'homme qui expliquait bon, tout ce qui s'était passé. Puis ensuite, il a quitté l'armée, il a eu une femme. Puis pendant 30 ans, il n'a rien dit à sa femme parce qu'il avait trop honte. Puis sa femme, tu sais, elle explique qu'elle sentait bien qu'il y avait quelque chose, un secret caché qu'elle comprenait pas, mais elle pouvait pas l'aider, tu sais, c'est lui qui fallait que ça aille lui-même. Donc ça, déjà, c'est vrai qu'il y a un bémol là-dessus au niveau du film, mais ça reste, comme tu l'as dit, c'est le sujet est plus grand que le film, en fait, et puis on peut pas dissocier ce film-là de son sujet. Pour moi, c'est un peu comme la Palme d'Or qu'on a décerné à Fahrenheit 9-1-1 de Michael Moore. Tu sais, c'est une question que ça va plus loin que le film, même si je pense que ce documentaire-là de Michael Moore est beaucoup plus intéressant et maîtrisé que The Invisible War. C'est un cas de figure où vraiment c'est le sujet qui est plus grand que le film. Donc, uniquement pour ça, pour moi, il pourrait, et je dis pas devrait, mais en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir que le film remporte le score juste pour un peu essayer de faire bouger les choses.
D'habitude, les réalisateurs font des beaux speeches en plus quand ils ont des films chocs comme ça. Là.
Non, mais c'est ça, puis donner une tribune un peu, tu sais, parce que les Oscars, c'est vu par des millions de personnes à travers le monde, donc s'ils gagnent le score puis que la personne fait un speech, tu sais, ça risque de faire changer les choses plus que s'il est seulement nominé, puis qu'ensuite sort en DVD, puis qu'on l'oublie, tu sais.
Non, ça, c'est sûr. Mais tu sais, tu dis, le film, faut aller au-delà des statistiques, mais je vais quand même en sortir deux, trois statistiques là, que je me rappelle, là, fait que ça se peut que je me trompe un petit peu, mais ils disent dans le film que, par exemple, il y a tellement de pression pour les victimes de viol de pas rapporter qu'il y a à peu près seulement 20% des gens qui sont victimes de viol qui vont le rapporter. Puis là, là-dessus, donc, ça faisait par année, je pense que ça donnait, les 20% qui rapportaient, ça donnait quand même 3500 cas à peu près. Puis là, il allait down de liste un peu, puis il disait, OK, sur ces 3500-là, il se passe ça, 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 puis ça. Puis là, ça fait comme une grosse chaîne d'événements qui fait qu'à la fin, il y a seulement 170 de ces cas-là, dans le fond, qui vont être incarcérés ou qui vont... puis là-dessus, il y en a peut-être seulement, je pense, c'était comme 500 qui allaient en cour martiale. Fait que vois-tu, t'as déjà à la source... T'as 80% des gens qui vont rien dire, puis sur les 20% des gens qui vont dire de quoi, OK, c'est quoi la statistique entre 3500 puis 170 qui sont incarcérés? C'est rien, ah, c'est fou, là. Tu comprends? Fait que c'est tellement... puis je pense que le film, effectivement, donne une voix à des femmes qui n'en ont pas tant, en fait. C'est ça que le film démontre.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est sûr. Mais vraiment, moi, en tout cas, je trouve que ça manque de répartie, puis ça manque de vision artistique comme film. Donc, à l'inverse, un film qui est, à mon avis, bien meilleur comme documentaire, mais qu'il ne ferait pas changer des choses si jamais il gagnait l'Oscar, on parle de l'autre film que Paul et moi, on a visionné, c'est le film Searching for Sugar Man.
Ouais, ça, d'ailleurs, ça pourrait pas être deux films plus opposés, je dirais. Searching for Sugar Man, c'est vraiment un feel-good movie, puis je dis ça sans aucun préjugé, en fait, là. Puis encore là, c'est un film dont l'histoire est absolument incroyable. Donc, il suffisait simplement que les réalisateurs Malik Bendjellul et Simon Chin ne se plantent pas avec leur sujet pour vraiment donner un film exceptionnel. Et puis, je pense que c'est un peu ça, bon.
C'est quoi, Rémi? C'est quoi Searching for Sugar Man?
Non, je sais pas du tout c'est quoi, en fait.
Parce que l'histoire est extraordinaire, c'est ça, Paul? Explique l'histoire, puis généralement, les gens, quand on raconte l'histoire du film, sont comme « Hein? Ah, ouais? » Puis moi, ça a été la même chose quand Paul me l'a conté, en fait.
C'est ça, en gros, c'est l'histoire de Rodriguez, un artiste au début des années 70 qui a produit deux albums, un artiste américain, de musique folk, un peu comme Bob Dylan ou Cat Stevens, un petit peu. Et puis, il n'a jamais vraiment eu de succès. Donc, il a laissé tomber. Puis là, il vit à Détroit. Il travaille dans la construction. Il a fait sa vie. Puis il est un peu dans la dèche. Ce qu'il ne savait pas, par contre, c'est qu'en Australie et en Afrique du Sud, il était immensément populaire. Et puis là, on parle des années 70, donc il n'y avait pas Internet pour que ça se propage, cette information-là. Donc, des années plus tard, fin 90, c'est deux fans, en fait, qui essayaient de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Rodriguez, parce que là-bas, en fait, en Afrique du Sud, il était comme plus connu qu'Elvis. Là. C'était incroyable, son succès.
Plus les Rolling Stones.
Et puis, fait que là, il y avait des rumeurs comme quoi que c'était immolé sur scène, qu'il s'était suicidé de manière très théâtrale. Puis donc, ils se mettent à sa recherche, puis finalement, ils se rendent compte qu'il est toujours vivant. Et puis, ils vont voir Rodriguez carrément, puis ils disent « Savais-tu qu'en Afrique, t'es plus gros qu'Elvis? » Puis là, au début, il est pas sûr. Et puis, finalement, c'est ça, c'est l'histoire vraie de ce mythe un peu qui a jamais eu le succès qu'il méritait. Puis ensuite, je dirais pas tout ce qui se passe, mais c'est tellement... Puis tu sais, c'est ça, c'est un cas qui est vraiment générationnel, parce que ça pourrait jamais arriver de nos jours avec toutes les communications, avec Internet, ça prendrait un mois, puis ça serait découvert. Tandis que là, c'est vraiment toute sa vie... 30 ans dans misère alors qu'il avait potentiellement le succès d'une rockstar planétaire.
Ah oh ouais, c'est ouais. Malade comme histoire.
Ouais, non, c'est ça, justement. Puis là, à un moment donné, les fans, ils se disent « Mais comment ça que tu le savais pas? T'as vendu genre 500 000 vinyles en Afrique du Sud seulement. » Puis c'est pas si gros, là, l'Afrique du Sud. Là. C'est comme, il dit, puis comme le film fait vraiment une bonne job de montrer à quel point que c'est une vedette là-bas. T'sais, ils disent des affaires du genre « Mettons que tu vas chez quelqu'un qui a moindrement des CD pop, t'sais, ils vont avoir genre Abbey Road, puis ils vont genre avoir ce CD-là de Rodriguez. » Tu comprends? C'est là-bas, là, c'est gros comme ça. Là. C'est
ça, les enfants connaissent toutes les paroles. Genre.
C'est ça, tout le monde. Puis, mais le film t'embarque vraiment parce que je pense que a priori, la plupart des gens qui voient le film le connaissent pas tant ou connaissent pas tant sa musique, mais le film rend extrêmement bien l'engouement et on crée le mythe aussi parce qu'au début du film, c'est comme long avant qu'on le voit même, comme en
photo. Ouais, ça c'est vraiment les points positifs, je trouve. C'est vraiment de bien personnifier le mythe, puis tu sais, des fois, il y a comme des montages animés un peu avec, on voit sa silhouette de l'homme qui marche avec sa guitare dans le dos, un peu comme, tu sais, un mariachi, si on veut. Mais ouais, ça, c'est vraiment un bon point que, tu sais, une fois qu'après peut-être 45 minutes, une heure, la première fois que tu vois vraiment Rodriguez en entrevue, il y a vraiment c'est une magie, en fait, puis c'est ouais. Grâce au montage, puis au choix des réalisateurs.
Là. Non, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça vivant, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait comme documentaire, une
leçon de montage. Ça doit être vraiment feel good quand tu le vois réaliser l'ampleur que ça prend. Là. Ça me rappelle un peu, c'est vraiment plus petite échelle, c'est sur YouTube, là, mais le Trololo Guy, là.
Ouais.
Il y a une vidéo de lui en fait avec des gens qui lui montrent tous les hommages que sur internet de lui, puis c'est des moments vraiment émouvants de voir un artiste qui enfin les gens ont compris, puis les gens ils aiment ça là. En tout cas, vous piquez ma curiosité, c'est certain que je vais regarder pour ça.
Puis en tout cas, ouais, moi j'ai pas vu les documentaires, c'est drôle, je suis assez à jour en général, généralement dans les films à visionner avant les Oscars, mais les documentaires c'est tout le temps ceux qui peuvent être plus difficiles à visionner. Beaucoup de gens qui prédisent que le film How to Survive a Plague pourrait l'emporter, sinon les autres nominés, donc là on vient de parler de deux, il y a How to Survive a Plague, il y a The Gatekeepers, un film sur les conflits israélo-palestiniens, puis l'implication américaine à travers tout ça, puis il y a aussi le film Five Broken Cameras, qui est nominé dans cette catégorie-ci. Mais ouais, Searching for Sugar Man, moi, ça faisait longtemps que j'avais vu un bon documentaire comme ça. Puis non, c'est ça, ça change pas le monde, mais c'est un fichu de bon film, puis c'est une histoire extraordinaire. Puis
mm-hmm. C'est un film aussi qui est pas très long, hein. C'est environ 1h20, puis c'est vraiment, t'embarques dedans, ça s'écoute bien, puis moi je travaille dans un club vidéo, puis on l'a fait jouer l'autre jour, et puis les gens s'arrêtent, puis nous demandent « C'est quoi ça? C'est bon comme musique? » Puis tu sais, parce que c'est vraiment c'est une vraie découverte vintage dans un sens.
Ouais, ouais,
c'est,
ouais.
C'est vraiment, il a fait uniquement deux albums au début des années 70, puis il a jamais rien fait d'autre, mais ces deux albums sont vraiment bons, tu sais. Puis en tout cas, puis justement, à cause de la sortie du documentaire, supposément qu'en ce moment, il travaille sur la sortie d'un troisième album pour 2013.
Ouais. Puis il aura fait des tournées aussi, c'est ça, ben comme je vous dis, il faut pas trop en parler parce qu'il y a comme un troisième tiers dans le film qui est vraiment extraordinaire de voir un peu arriver sous nos yeux. Mais là, il a comme repris un peu carrière, là, si on veut. Fait que c'est assez extraordinaire de voir ça.
Ouais. Puis d'ailleurs aussi, c'est un autre aspect du film qui est vraiment exceptionnel selon moi, c'est que c'est vraiment l'histoire du underdog, là, l'espèce de gars que personne ne pensait qu'il allait avoir du succès. Finalement, il y a un grand succès. Mais outre ça, le réalisateur, pendant qu'il faisait le film, à un moment donné, il manquait de financement, mais il savait qu'il y avait de quoi de gros sur le même, il savait qu'il y avait un gros sujet. Donc, en attendant des demandes de bourse, puis lui, il poussait, il a filmé des entrevues, puis des bouts du film avec son iPhone, tellement qu'il était tu sais, il voulait vraiment rendre hommage à ce sujet-là, puis il savait qu'il y avait un film important sur les mains. Donc, tu sais, non seulement le chanteur dans le film, mais également, tu sais, le film en tant que tel, c'est un peu un exploit qui ait vu le jour, puis là, finalement, il est nommé aux Oscars. Donc, c'est vraiment, tu sais, l'espèce de success story, je pense, qui peut émouvoir l'Académie, effectivement.
Ouais.
Donc, ben voilà, alors ça, c'était pour les deux documentaires qu'on a vus cette semaine aux Oscars. Dimanche prochain, on va écouter ça. On a bien hâte de voir, évidemment, si un ou deux Québécois vont se rendre jusqu'à la statuette dorée. Maintenant, en attendant, qu'est-ce qui sort en DVD mardi, Rémi?
Il y a tellement de choses qui sortent cette semaine. Je vais y aller en rafale, comme d'habitude, mais plus vite même. Donc, allons-y, Anna Karenina sort.
T'es-tu capable d'y aller aussi vite que Mark Wahlberg quand il nomme des prénoms de blondes en TED?
Peut-être pas aussi vite, mais je vais faire mon possible. Donc, allons-y, Anna Karenina, Argo. Yeah. Holy Motors sort, Kirikou et les hommes et les femmes, il y a Camille Redouble qui sort, il y a le prénom, Seven Psychopaths, Sinister, il y a aussi l'excellent film Atlas Shrugged Part 2, non c'est considéré comme un des pires films de l'année, mais je trouve ça drôle de le noter, et Lake Placid, il y a un nouveau chapitre, hein? Final Chapter. Enfin, le final chapter de Lac Placide, tout le monde attendait enfin. Les crocodiles tueurs. Ensuite de ça, on sort dans les rééditions en DVD. Donc, il y a le film Best in Show de Christopher. Christopher quoi déjà? Guest. Le film Highlander 2, l'édition Renegade. Il y a The Insider, Les Misérables, en fait, le film français Les Misérables. Monster Squad qui sort, Monster Inc., Night of the Demons 2. Il y a Underwater Front, une nouvelle édition, yeah. The Running Man, Terminator, une remasterisation. Il y a Top Gun qui sort aussi en attendant la version 3D. Si vous voulez comme réapprendre les répliques chez vous avant d'aller voir le film en salle,
Non, c'est la version 3D en fait.
Ah, ok. La version 3D est déjà passée au cinéma?
Ouais, comme une semaine. Là.
Ok, c'est bon, c'est correct, comme ça. Puis après ça, allons-y dans les séries. Donc il y a Six Million Dollar Man, la saison 3, Flash Gordon, les aventures complètes et la web-série Manigance.
Il y a aussi surtout Games of Thrones, saison 2.
Oh, désolé, je l'ai skippé celle-là. Oui, ouais. Voilà.
Donc, très grosse semaine en sortie en DVD, ça vaut la peine. Il y a vraiment beaucoup de perles dans ce que tu as nommé. Oui, on pense entre autres à Anna Karenina et Holy Motors, pour nommer que ceux-là. Et sinon, en salle, Pascal, qu'est-ce qui sort vendredi?
Ben, t'as un peu en salle, je vais y aller, mais il y a aussi quelque chose qui est assez important, là, un festival assez important qui va commencer dès ce jeudi, c'est les Rendez-vous du cinéma québécois.
Oui, évidemment, merci.
Évidemment, oui. Moi, d'ailleurs, j'ai mon court-métrage Baby Blues qui va jouer le dimanche 24 à midi, donc je me plug. C'est à la Claude Jutra de la Cinémathèque, si vous ne l'avez pas vu, puis ça vous tente de voir qu'est-ce que votre humble serviteur du podcast peut faire, ben, venez voir un programme de court-métrage.
C'est bon.
Bon, ben merci, mon ami. Puis, c'est ça, le film d'ouverture des RVCQ, c'est le film québécois Roche-Papier-Ciseaux. Mais sinon, juste rapidement, là, t'sais, tout au long de la semaine, les RVCQ, ça se termine le 2 mars et ça commence, c'est ça, comme je l'ai dit, ce jeudi. Et il y a vraiment, c'est vraiment l'anthologie du cinéma québécois, là. Je pense que tout y passe. Il y a certains films qu'on n'a pas vu en salle, donc il n'y a pas eu de distribution formelle en salle qui vont passer là exceptionnellement, mais il y a aussi des gros films qui reviennent sous le spot. Light. Donc, si jamais vous n'avez pas vu, par exemple, Rebelle sur grand écran, ben Rebelle va jouer. Allez voir sur le rvcq.com, .com ou .ca?
Ouais, .com.
Si vous voulez voir L'Empire Bossu, en fait, c'est vraiment drôle parce qu'il y a les deux mauvais films québécois de l'année, donc Mars et Avril et L'Empire Bossu, jouent tous les deux, mais ils ont mis en même temps dans deux salles différentes, à la même plage horaire. Comme ça, ils se sont dit, tu sais...
Quel dilemme!
Comme ça, si vous avez un dilemme entre L'Empire Bossu ou Mars et Avril, ben, c'est ça, là, tirez à pile ou face, allez voir un de ces deux.
Le pire, c'est que j'ai pas vu Mars et Avril, puis je suis sûr que c'est vraiment meilleur que L'Empire Bossu.
Ouais. Ben, honnêtement, Rémi, ça serait bon que tu le vois.
Ouais, j'aimerais vraiment ça. Puis vous savez, je suis fan de films de marde, fait que c'est comme nécessaire que je le vois, je pense.
Non, mais ouais, t'essaieras d'aller le voir pour vrai au RVCQ, Rem. Ça vaut la peine. Mais sinon, il y a d'autres... tous les films québécois de l'année, comme Camion, si vous ne l'avez pas vu sur grand écran, mm-hmm. Je le conseille beaucoup. Et j'en passe, là, vraiment. Je ne peux pas tous les nommer parce que ça serait de faire une espèce de liste des longs-métrages qu'on a eu au Québec là, cette année. Mais
il y a aussi quelques grosses premières quand même, comme Le Météore, La Cicatrice, ouais. Roche-Papier-Ciseaux, Finissant aussi de Raphaël Ouellette.
Oui, Finissant.
Donc, il y a aussi quelques grosses premières.
La Cicatrice, je te reprends. Par contre, il a joué au FNC. Mais okay. Par rapport rapport aux autres, oui, je suis d'accord. Non, c'est ça, il y a des films. Puis les RVCQ, c'est toujours le fun parce que la plupart du temps, tu sais, c'est vraiment la fête du cinéma québécois. Les réalisateurs sont vraiment plus souvent qu'autrement, sont dans la salle avec les comédiens. Il y a une convivialité. Je pense que c'est la bonne façon de voir certains très bons films que vous n'avez pas pu voir. Comme je vous dis, moi, je vous conseille peut-être Camion. Il y a Roméo 11 aussi qui va être au Jutra, qui va repasser sur le grand écran, que moi j'ai pas vu, donc je vais essayer de voir dans ce contexte-là, parce que c'est comme je vous ai dit, c'est peut-être la meilleure façon de les voir, nos fameux films. Donc les rendez-vous du cinéma québécois, ça c'est pas mal, tout aux alentours de Berry-UQAM, là, Cinémathèque, après ça le Odéon, Quartier Latin, tout. C'est, allez voir sur rvcq.com, vous allez en avoir pour votre argent. Sinon, en salle régulier, le vendredi 22 février, on a Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Toi, Paul, tu l'as-tu vu, ça?
Non, ça, je l'ai pas vu, en fait. Ça me tentait pas tant que ça, mais vraiment, les échos de la France, là, c'est assez terrible. Là. C'est un gros flop, autant critique que monétaire.
Mais donc, après les Olympiques, ça avait craché niveau critique puis monétaire, puis ouais. Ils décident d'en faire un autre quand même.
Ben, vous savez que, tu sais, on a parlé beaucoup, évidemment, de la crise au Québec, du cinéma, tu sais, par rapport au box-office, etc. Mais en France, il y a vraiment le même problème en ce moment. Tu sais, il y a vraiment un questionnement sur la crise du cinéma français. Et puis, pointer du doigt, c'est les gros budgets et les gros salaires des acteurs. Et puis, comme, un peu comme porte-étendard de ce problème-là, ça serait justement Astérix Obélix, qui aurait coûté, je pense, 60 millions d'euros, ce qui est vraiment un budget énorme.
Ouais, ça tape un peu Danny Boone, là, il est supposément 4 minutes à l'écran, puis il a été payé 1 million d'euros. Pour 4 minutes d'écran.
Hein? Pour rien, qui ça, je savais pas.
Ouais. Tu sais, vois-tu, il y a comme des aberrations là, à ce niveau-là. Là. Puis c'est pas sûr que c'est Danny Boone. Tu sais, oui, c'est bien beau les ch'tis, mais je suis pas sûr que c'est Danny Boone qui va faire que. Tu sais, qui va transporter les masses à ce point.
Tu sais, t'as Catherine Deneuve dans le film, puis tu sais, en tout cas.
Mais pour une nouvelle génération, je pense que justement, c'est pour viser justement plus les jeunes.
Hey, Yves Jean qui joue dans le nouveau Astérix.
Ah ouais.
Il joue le psy de César.
Hey, Astérix, là, c'est une co-production France, Italie, Hongrie, Belgique, Espagne, Québec, Canada.
Ouais. Bon, bref, donc c'est ça, ben, il y a Astérix et Obélix, ça c'est une des grosses sorties de la semaine. Sinon, il y a le film américain Dark Skies avec Kerry Russell, le film de. C'est ce suspense, horreur, même borderline. Là. Ça avait l'air pas si pire, là, la bande-annonce, ça avait l'air efficace. Il y a le film La Grâce de Mathias Glasner, un film coproduction norvège-allemande. Il y a le documentaire québécois Les Criminels de Jean-Claude Lord. Il y a le film américain Snitch avec The Rock et Susan Sarandon. Il y a le film québécois Roche, papier, ciseaux qui, comme je disais, fait sa grande première au RVCQ la journée juste avant, mais qui sort en salle le vendredi. Ça, c'est un film de Yann Lanouette-Turgeon avec Roy Dupuis. Et il y a le film Home for the Weekend, un drame allemand. Mais il y a aussi, surtout, ça c'est pour les cinéphiles, ça c'est le bonbon pour les cinéphiles cette semaine, c'est le film Barbara de Christian Petzold avec la comédienne Nina Hoss. Ça c'est un film qui se passe dans les années 80, donc au cœur du conflit vraiment Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est. C'est autour d'un personnage féminin, une médecin. Puis ça c'est un film qui avait eu des grandes critiques à travers le monde. Il n'avait pas été retenu par contre dans la catégorie meilleur film en langue étrangère, ce qui avait été vraiment surprenant selon plein de spécialistes, c'était un des gros films de l'année, puis finalement n'a pas été retrouvé là pour X raisons. Le film présentement est à 87% sur Metacritic, et ça sort ce vendredi pour le plaisir de tous. Et voilà pour les sorties en salle.
Parfait, ben nous on va aller découvrir Roche, papier, ciseaux par le biais de la bande-annonce. C'était notre point de vue, et mon nom est Paul Andriot, j'étais avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Qu'est-ce qu'on fait à Montréal?
Changer d'heure.
Là-dessus, t'as permis.
Ralentis un peu, j'ai pas envie d'avoir les yeux au cul.
Vous avez l'air en forme pour un homme de votre âge.
Si.
Vous fatiguez jamais? Moi, j'ai peut-être une solution pour vous arrêter de pédaler comme ça. Ça vous intéresse de faire un petit peu d'argent? Appelez-moi.
Je me suis fait un petit temps, je fais ça pour vous autres, puis je me dis que. Je l'ai assez fait. Je veux que ça finisse, moi, man. Il existe que dans la vie, tu peux pas choisir ta famille, mais c'est pas vrai, toi, t'as encore le choix. Mais si tu choisis la mauvaise famille.
Facile que ça. ça par hasard, du thé vert?
Là, du thé en poche.
Du thé en poche.
Ben, en poche, là.
Va te prendre une poche.